Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité 0826 300 300. Et puis également, vous pouvez nous retrouver sur le Facebook de l'émission. Ça ricane. Ça ricane. Je sens des petits rires. Bruno Pommard est là. Bonjour. Vous êtes maire de Belflou dans l'Aude. Vous avez été la fondation du RAID, participé à la fondation du RAID. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, membre du Conseil économique et social et environnemental. Faut pas l'oublier, l'environnement.
Bonjour. Bonjour.
Christian Villeneuve, journaliste. Journaliste politique. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et Olivier Dartigol, dirigeant national du PCF, conseiller municipal à Pau. Pas mal de sujets et puis je crois que vous avez des coups de gueule qui vont pas mal faire réagir également. Les époux Fillon renvoyés en correctionnel. La droite s'est-elle relevée de cette affaire? La réponse, on la connaît déjà. Mais en tout cas, qu'en pensez-vous? Le fait qu'ils aient été renvoyés en correctionnel. Travailler plus, faut-il repousser l'âge de départ à la retraite? Ce matin, Jean-Paul Delevoye a dit une chose bien curieuse. L'âge de la retraite ne bougera pas, mais enfin si vous voulez travailler un peu plus longtemps, on n'est pas contre. Et puis les petits déjeuners gratuits à l'école, est-ce que c'est à l'État de le faire? Est-ce que vous y êtes favorable? Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, et on va commencer avec vos coups de gueule, vos coups de cœur, et on va commencer peut-être avec Christian.
Moi, c'est très très simple, c'est que je suis un peu fatigué et j'en ai ras-le-bol. Ouais. Des polémiques haineuses, inutiles et sans intérêt.
Précisez votre pensée.
Voilà.
Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Mais la dernière en date, c'est effectivement touche Nathalie Loiseau. On lui reproche d'avoir été sur une liste d'extrême droite en sixième position, donc aucune chance d'être élue, il y a 35 ans. Depuis, elle a fait son chemin et à aucun moment... elle n'a montré la moindre connexion
avec l'extrême droite.
Avec l'extrême droite. Et donc, se trouve que de ressortir ça, ça n'a aucun intérêt. Sinon,
ça s'appelle une boule puante.
Sinon, de nous détacher des enjeux de cette élection, on parle de tout sauf du programme.
La politique est politicienne, c'est toujours bien, c'est clair.
Vous en pensez quoi les uns les autres? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense que
le problème est venu aussi hier
de sa communication.
Quand même, il suffit de dire oui, c'était il y a 35 ans, les années de jeunesse, voilà ce qui s'est passé, et il vaut mieux avoir la trajectoire qu'elle a eue que dans le sens inverse pour moi. Il suffisait de le dire aussi simplement.
Non, mais je suis d'accord.
Est-ce que ça mérite tout ça?
Hier soir, toutes les chaînes télé.
C'est-à-dire qu'elle mène quand même sa campagne.
Jean-Luc Benamias,
sur le fait de dire je suis le rempart contre l'extrême droite. Et donc, effectivement, ce qu'on a fait il y a 35 ou 40 ans, moi j'assume ce que j'ai fait au PSU dans l'extrême gauche française, sans aucun problème. Mais la défense, dire quand on est à Sciences Po en quatrième année,
je
ne savais pas. Oui, c'est ça, c'est là le problème.
Elle nous a fait une virenque.
Ça pouvait passer. Je prends des exemples de gens dont je savais, dont on sait qu'ils ont été à Occident et à Endroit Nouveau.
À l'extrême gauche, c'est pareil.
Ça gêne moins.
Je dis pas le contraire. Ça gêne moins. Par rapport à gens qui ont été maoïstes, ça gêne pas moins. Je m'excuse. Les crimes de Mao et du maoïsme sont absolument
Je pense que ça aurait pas eu le même impact si elle avait été maoïste ou trotskiste.
Ça dépend.
C'est fort possible.
Regardez comment Jospin, quand on a découvert qu'il faisait de l'entrisme au Parti Socialiste, parce qu'il était membre à la fois d'une organisation trotskiste qui s'appelait l'OCI. Il a dit oui tout de suite. C'est une question.
C'est une autre époque.
C'est une autre époque.
Mais quand même, on ne peut pas dire à chaque fois. C'est bizarre là cette défense à chaque fois qui est la négation de ce qu'on a été. Quelle a été cela et qu'elle ait dit oui à être sur une liste électorale à Sciences Po? Elle serait pas à Sciences Po. Elle serait en école de commerce.
Elle était à Sciences Po. Alors elle a expliqué qu'à l'époque il cherchait des femmes. C'est vrai que sa communication est absolument dramatique. Nulle quand elle a annoncé sa candidature face à Marine Le Pen.
Elle s'est plombée avec le fait qu'elle veut lutter contre le Front National, c'est tout. Ils ont cherché et puis.
Et puis ils ont trouvé. Mais c'est vrai que c'est une polémique qui est un peu longue. Olivier,
ah oui.
C'est un coup de cœur.
Je n'ai assez, on a tous nos... parfois du bashing et des critiques concernant les salariés des organisations politiques ou syndicales, ce qu'on appelle les permanents. Hier, on a déposé la liste au ministère de l'Intérieur, de la liste de Yann Broussa aux élections européennes. C'est 79 noms. Et j'ai eu une pensée pour l'ensemble des camarades qui, depuis des mois, travaillent à la constitution de cette liste. Et lorsqu'on va déposer au ministère de l'Intérieur, il faut que ce soit très scrupuleux, qu'il ne manque rien, pas un bouton de guêtre. C'est un travail très exigeant. Et je pensais, j'ai horreur du terme des petites mains, mais je pensais à ces salariés, à ces permanents, qui font un travail pour faire vivre la démocratie, en fait. Voilà. J'ai pensé à eux en voyant
ce dépôt. C'est le coup de cœur que vous aviez envie de faire.
Oui, ça n'a pas l'air...
C'est le Parti communiste,
si,
c'est
qui ça n'a pas l'air... Là, je fais un pchit, mais alors, Valérie...
C'est un peu politiquement correct, quoi. Ouais, c'est un peu langue de bois, c'est un peu...
Pourquoi langue de bois? Je connais celles et ceux qui ont fait ce travail au cours des dernières semaines. On parle rarement d'eux, si ce n'est les partis politiques et tout ça, les... Bon, mais j'ai essayé, j'ai échoué. Voilà.
On n'a pas grand-chose à rajouter, si tu veux.
Voilà, on n'a pas. Bravo.
Bon,
bravo.
Tout est bon pour les Européennes.
Merci. Bravo. J'aurais pu raccrocher, peut-être, puisqu'on parlait de Sciences Po, ce qui s'est passé hier. Alain Finkielkraut, qui avait été invité à Sciences Po par une association d'étudiants et qui a été... empêché au départ par cette association qui s'appelle Lutte Fondation Clément Méric, du nom donc du militant anti-fasciste tué par des skinheads. L'association donc a publié un communiqué qui dénonçait cette tribune en qualifiant Alain Finkielkraut de réactionnaire. Donc on tombe quand même dans une espèce de d'intransigeance. Vous parliez des polémiques. Alors donc finalement ils ont dû tenir cette réunion ailleurs, ils sont revenus à Sciences Po, enfin où on va quoi quand même. Ouais. Non, c'est bon, moi aussi j'ai fait pchit.
Non.
Voilà, c'est des coups de gueule qui
c'est provocateur Finkielkraut, on le sait.
Ça va, faut pas exagérer non plus quoi. Non.
Non, mais il appartient au paysage intellectuel français. Il a
tout à fait
le droit de s'exprimer quand même.
Allez.
C'est quand même. On a le droit de s'indigner aussi.
Au même titre qu'il a été pris à partie dans la manifestation. C'était scandaleux. Quoi.
C'est pas normal que Finkielkraut ne puisse pas s'exprimer à Sciences Po. C'est
tout.
Donc on a le droit de s'indigner.
Christian. Non, Christian, il a fait, c'est Jean-Luc, on n'a pas son coup de gueule.
Oui, non, c'est un coup de gueule et un coup de cœur par rapport à cette histoire sur la carte de presse. Je vais aller au-delà de la personnalité. C'est dingue comme on réinvente l'histoire. On peut être journaliste sans avoir une carte de presse. D'ailleurs, pour une raison assez simple, c'est que parfois, les revenus que vous touchez en tant que journaliste ne sont pas suffisants pour obtenir la carte de presse. Il faut toucher à peu près le SMIC, au minimum. Mais je me rappelle mes débuts dans la presse, parce que j'ai été quand même 25 ans journaliste, carte de presse 39804, je me rappellerai toute ma vie. Oui, pas mal. Hein. Mais au départ, je n'avais pas de carte de presse. Pendant 2 ou 3 ans, les premières années. Et pourtant, j'étais considéré totalement comme journaliste. Une raison bien simple, d'ailleurs, on faisait nous-mêmes notre propre carte de presse. Le journal que je travaillais, ça s'appelait Antirouille. Pour aller dans les festivals de musique, qui commençaient à y en avoir à l'époque, je pouvais rentrer. Hein. C'était pas parce que j'avais pas la carte de presse officielle que je rentrais pas. Voilà. Polémique inutile. Après, on peut penser ce qu'on veut de ce qui s'est passé. Moi, j'en pense pas moins sur le fait que c'est allé un peu loin. On met pas en garde à vue quelqu'un pour une histoire de doigt d'honneur. On peut attaquer, mais pas. On met pas en garde à vue 48 heures. Pour le reste, voilà, je voulais insister sur le fait que non.
Oui, c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste.
C'est pas la carte de presse qui fait le journaliste.
Jean-Pierre Pernaut, d'ailleurs, n'a pas de carte de presse.
Et à
Sud Radio, moi, je n'ai pas de carte de presse. Donc ceux qui m'insultent en tant que journaliste, je n'ai pas de carte de presse. En fait, il faut expliquer aussi que le système est un petit peu obsolète de la commission de la carte de presse, puisqu'aujourd'hui, il faut faire partie d'une rédaction. Il y a des organismes, des sociétés de production, par exemple Quotidien, l'émission Quotidien d'Yann Barthès qui fait un travail de journaliste, a mis énormément de temps à avoir la possibilité de donner des cartes de presse à ces journalistes. Et puis de plus en plus, les journalistes sont payés sur facture avec des honoraires et non plus en salaire. Donc vous ne pouvez pas obtenir la carte de presse là-dessus.
Et je rajoute 8 secondes, les pigistes ont le plus grand mal. Or, presque la moitié des journalistes aujourd'hui qui travaillent sont des pigistes. Pigistes, ça veut dire qu'ils travaillent, ils sont avec des contrats uniquement par rapport au papier qu'on leur a commandé.
Alors maintenant, il ne suffit pas non plus d'avoir une caméra et d'écrire 3 trucs pour être journaliste.
Moi, cher Jean-Luc, moi, je ne suis pas d'accord trop avec toi parce que d'abord, on n'a pas les éléments.
Bruno
Pomar.
Autour
de studio de radio, là, on n'est pas dans la manifestation. Moi, il s'avère que ce matin, j'ai eu les gens qui étaient, la CSI, la fameuse compagnie de sécurisation d'intervention, qui étaient sur le terrain où il y a eu cette affaire Gantz. Il faut savoir qu'il y a eu une charge. Que, évidemment, quand il y a une charge, on bouscule du monde. Même certains journalistes, il ne faut pas rêver, quand ça charge. Et il faut savoir que Gantz a été interpellé sur ce doigt d'honneur, qu'il a refusé de reconnaître devant le juge, Et c'est pour ça que sa garde à vue a été prolongée. Non mais... Il faut remettre les éléments dans la... Parce que c'est facile, on peut discuter toute la journée sur les réseaux sociaux de dire
que le pauvre journaliste. Sur les trois dernières semaines, lors des samedis, 73 journalistes ont fait l'objet de traitement qui n'est pas acceptable.
Mais j'en conviens, sûrement. On parle
donc
de
c'est
garde,
l'accumulation.
Non, je parlais de général. Justement. Je prends l'exemple de ça.
Tu parlais tout
oui, parce que je te dis 48 heures par rapport à cette garde-vue, me paraît pas
utile. Oui, mais
parce
on n'y est pas. Mais on n'y est pas. On n'est pas dans le.
Parce
on
que.
Pas,
parce qu'il a menti au juge. Parce qu'il a menti au juge sur le fameux doigt d'honneur qui a été éprouvé avec des images.
Il est prouvé. Les images.
Non, mais c'est tout.
Tout le monde a vu les images.
Mais donc ça veut dire quoi? Qu'il a nié pendant qu'il était en garde à vue.
Il avait fait un doigt d'honneur au passant.
Parce qu'il l'a reconnu en sortant quand il a fait une conférence de presse. Il a fini par le.
Il n'a pas dit devant le juge. Donc
après. Force constater que concernant les violences policières qui ont eu lieu, qui font l'objet parfois de procédures IGPN, souvent elles sont révélées par un travail journalistique au plus près, et cela commence à déranger. Pour le, oui, bien, c'est la réalité.
Il y a quand même un paquet de, il y a près de 200 plaintes qui ont été posées à l'IGPN. Tout ça, ça va être traité. Ça prend du temps, il ne faut pas croire. Oui, non, et encore une fois, je le répète, mais
vous croyez, vous pensez, Olivier, je vous pose la question très naïvement, que les policiers ont des ordres en disant vous arrêtez les journalistes,
moi, je suis
vous
toujours,
empêchez les journalistes
moi,
de,
je suis toujours,
d'être au plus
pour
près.
Pour avoir des contacts réguliers avant ou après les plateaux avec des responsables syndicaux, des polices, tout ça, il y a des recommandations, il y a des ordres, comme vous dites. Il y a des choses, à un moment donné, dans l'oreillette. Voilà, les
enfin,
agents de police.
Comment on sait qui est qui?
Après, il peut y avoir des agents plus ou moins. Après, je termine. Il peut y avoir des agents plus ou moins zélés, plus ou moins inspirés. Mais il se trouve que tous ceux qui observent la situation et son évolution au cours des 3-4 derniers samedis, avec une radicalisation du côté des Gilets jaunes,
elle est là.
Mais avec aussi, là, j'ai vu une image terrible, je ne sais plus en quelle ville, où il y a une dame, d'ailleurs Radio France, c'est pas Pays de Loire, truc où elle prend un coup, une dame, mère de famille, derrière la tête. Elle s'effondre. Pourquoi ? Il y a sur certains moments des choses...
Mais on peut prendre tous les cas individuellement sur les centaines d'interventions et de tout ce qui se passe dans une manif, j'en conviens avec vous. Mais en ce qui concerne...
Mais en tout cas, ça a souvent été révélé par un travail journalistique indépendant, d'ailleurs.
Alors, j'avais plusieurs réactions. Jérôme nous dit, BFM jamais tabassé par les flics. Donc, sous-entendu que certains journalistes seraient plus visés que d'autres. Beaucoup nous disent...
BFM ont été pris à partie.
Oui, ils ont été pris.
C'est pas les Gilets jaunes, ils ont été pris à partie.
Non, non, mais j'ai vu aussi. Ils ont pris.
Oui, ils ont été pris à partie par des Gilets.
Quand des grenades lacrymogènes partent, mais les journalistes ne sont pas épargnés par les grenades
lacrymogènes. Oui, mais
c'est quand il y a agression systématique, ça c'est autre chose. Mais voilà.
Et très sincèrement, le coup de l'affaire Gantz, puis c'est le dernier en lieu, tout le monde en parle, encore une fois, tous les fonctionnaires de police des BAC et des compagnies d'intervention n'ont pas une photo de lui pour le reconnaître, ouais, c'est dire c'est celui-là, il va falloir attraper. Tout le casque, le foulard, puisqu'il était masqué. Bon, il faut arrêter le délire, quoi. Ça c'est dans les films et c'est encore une fois dans les réseaux sociaux qu'on voit.
Et c'est par ailleurs lui qui a pris la photo de Benalla. Brassard de police sur la place de la contre-escarpe le 1er mai dernier. Donc il y a tout un contexte.
Mais il est spécialisé dans ce domaine-là.
Pas que sur la place, aussi sur le boulevard.
Il est spécialisé des problèmes sociaux. Donc il est toujours dans ces couleurs.
Mais c'est pas le seul. Il n'est pas tout seul.
Il y a beaucoup de journalistes.
Le travail aujourd'hui de transparence, qui est pour moi extrêmement utile, je le dis, je le répète, quand on est journaliste et qu'on est dans l'action, évidemment qu'on ne peut pas échapper à une grenade lacrymogène et parfois une grenade des encerclements.
Je suis content d'entendre dire ça, M. Benhamias.
Mais non, mais c'est pas une raison pour autant, après, pour cibler. Or, il y a eu, et les journalistes de BFM en ont été, quand on regarde un certain nombre d'images, il y en a eu tellement depuis 24 semaines, évidemment, on est débordé par rapport à cela. Il y a effectivement, je peux comprendre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je peux comprendre l'énervement, la fatigue des forces de police, l'exaspération. Mais parfois, il y a des ciblages. Voilà. Et parfois, il y a des grosses erreurs. Ce dont tu parles, Olivier, je vois très bien les images dont tu parles. C'est une femme qui recule, qui ne regarde pas. Il y a une charge de police.
Oui, c'est de l'action.
Il est complètement énervé.
Il
lui file un gros coup sur la tête.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Alors Bruno Pommard, donc je précise que vous êtes maire de Belleflou, que vous avez fait partie de l'équipe fondatrice du RAID. Donc, parce que certains disent que vous faites partie d'un syndicat de policiers.
Non, pas du
vous
tout.
Avez été policier, vous avez encore des connexions, vous avez le droit de vous
exprimer.
Je suis un sniper,
voilà.
En plus, tu pourrais, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal.
Oui, non, non, mais je défends la maison police, mais quand il y a des travers dans la police, je suis capable de les dénoncer. Hein, ça, j'ai pas de souci là-dessus.
On peut être syndiqué.
Alors, on n'a pas entendu votre coup de cœur ou votre coup de vous, c'était quoi dans le coup de cœur?
On en revient à cette fameuse Notre-Dame de Paris qui a brûlé, comme tout le monde le sait, ce merveilleux mouvement qui est l'histoire de notre pays. C'est vrai que toutes les grandes fortunes ont cotisé ces biens, hein, ça rapporte beaucoup d'argent. Ce qui me met un petit peu en colère, c'est tous les politiques, évidemment, qui récupèrent le problème à la volée, là, comme on dit, c'est de se mobiliser pour préparer des dons qui sont faits par des collectivités autres que celles de Paris intramuros, je dirais. On a déjà un paquet de monuments en France à remettre d'aplomb. Il ferait mieux de s'occuper déjà de ce qui se passe dans nos régions. Je pense que Estrosi a fait une déclaration dans ce sens. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe dans sa région.
Certains râlent en disant on a déjà du mal avec nos monuments.
J'ai ma petite église, si vous voulez bien cotiser, mais dames, j'ai 15 000 euros de travaux à faire dans ma petite église.
Mais avec un problème, on ne pourra pas tout régler par l'appel à générosité. On a un budget indigent sur le patrimoine.
350 millions.
On ne peut pas tenir comme ça.
Donc c'était votre coup de gueule. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et qu'on continue d'en parler. Je suis un peu atterré par les réactions que je vois. Fake news, Notre-Dame, etc. Enfin bref. Je vous le dis, je réagis en direct. Je ne devrais pas, mais voilà. Du hasard, la faute à pas de chance. Il faut arrêter tout ça.
Vous savez ce qui m'est arrivé, Valérie, sur une autre émission, face à un représentant de RN qui théorisait la thèse complotiste, qui remettait en cause l'origine accidentelle du départ de feu. J'ai simplement dit, mais enfin, sur quoi vous vous basez? Est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? C'est déjà assez dur et tout ça. Je suis depuis 48 heures sur le flot de ce qu'on appelle la fachosphère sur les réseaux sociaux. Ça faisait quelques temps que ça ne m'était pas arrivé. C'est sidérant. La violence, l'organisation.
Mais c'est dans tous les sens, parce que je vois Zora Bitton qui a dit des choses pas très sympathiques sur Gaspard Gans. Elle est l'objet d'un certain nombre de gens qui la bloquent, qui l'insultent. Donc c'est dans tous les
la
sens.
La bêtise est transpartisane.
Non, mais le climat est délétère. Hein. Le climat est très très mauvais.
Nos réseaux internet facilitent tout ça. Donc il faut le prendre avec. À ce moment-là, à la limite, il ne faut pas y être. Parce que moi, je disais à ma directrice de la com.
Mais que fait Twitter France concernant que certains comptes notés sur leur comportement dégueulasse et appel au meurtre, incitation au suicide, qui est une qualification.
Terrible.
Pourquoi Twitter France fait preuve d'autant de laxisme?
Je ne sais pas. Ou de célérité pour certains comptes, dont celui de Didier Maistre, qui avait été coupé pour...
J'avais réagi.
Oui, vous aviez réagi, mais c'est vrai quand on lisait le propos, il n'y avait aucune raison de couper ce compte quand on voit les insultes qui pleuvent aujourd'hui. On va peut-être changer un petit peu de sujet. On va parler. Je voudrais qu'on parle des petits déjeuners. Vous vouliez en parler, Christian de Villeneuve, les petits déjeuners gratuits à l'école dans les quartiers défavorisés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation hier. Des petits déjeuners gratuits, ce sera généralisé en septembre. Ça concernera 100 000 enfants. 200 000
en septembre.
200 000 en septembre. L'État financera cette mesure à hauteur de 6 millions d'euros. Est-ce que finalement c'est une bonne idée?
Écoutez, moi je voulais en faire mon coup de cœur.
Oui.
Parce que je trouve que c'est une mesure assez salutaire dans la mesure où je crois qu'il y a un enfant sur 10 qui arrive à l'école le matin le ventre vide.
Mais pourquoi? Mais la faute à qui?
La faute peut-être aux parents, peut-être un manque de ressources, peut-être.
Une baguette, ça coûte 80 centimes d'euros si vous allez
35 chez Lidl.
Ou 80 chez Auchan, j'allais dire. Du beurre, ça coûte 1,50 € pour 250 grammes. Enfin, faut arrêter les moyens. C'est là où moi je suis pas d'accord.
On peut s'interroger parce que ce que Valérie vient de dire est frappé du coin du bon sens, mais en même temps c'est des familles qui sont souvent des
5-6 gosses, hein, voilà. Il y a des grosses familles,
moi je veux bien, si le système scolaire, parce qu'il s'agit de
maternelle
et primaire, était élaboré pour qu'il y ait suffisamment d'aide, mais si la journée commence par je veux bien qu'on aide un certain nombre de familles, je trouve ça très très bien, mais la journée commence par un petit déjeuner.
Ouais.
Mais je voudrais être à la place des institutrices, car il s'agit de ça. Hein. Ouais. Souvent, c'est des institutrices, quelques instituteurs de temps en temps. C'est quand même extrêmement compliqué. Et je ne vois pas pourquoi l'État paye. Les écoles dépendent de la municipalité. C'est encore un dernier truc. Tu vas me dire si je me trompe. C'est une des dernières choses dont s'occupent directement les municipalités au dehors de l'interco.
Oui, bien sûr.
Et donc, que l'État aide. Vous savez combien le prix 6 millions, ouais. C'est que dalle, quoi. Oui, on est d'accord.
À l'échelle
globale, c'est rien du tout. Bon, qu'on aide, qu'on fasse attention, mais ça dépend pour moi de l'aide sociale. Ouais. Totalement de l'aide sociale, ouais. en amont par rapport à tout cela, c'est à peu près ce que tu dis.
C'est ce que dit le co-président de la FCPE, il dit l'État doit plus investir sa mission pédagogique au lieu de faire de la charité, on se croit revenu au temps du verre de lait et du sucre de Mendès France. Sauf qu'on est en 2019 et pas en 54, donc on ne peut pas avoir une politique de nutrition.
C'est là où justement on parlait du climat, il y a un climat de bashing systématique qui me choque. Quand j'ai lu ça hier, j'ai dit « Oh, c'est une bonne mesure, ça met tous les gamins en même situation. » Situation d'égalité pour suivre les cours toute la journée. Voilà, donc
on cherche pas les racines. Ça va créer de l'obésité aussi.
Dans tout ça, on cherche pas les racines du mal. On est toujours en train de mettre des tampons, colmatages.
La question est
Olivier d'Artigol.
Dans les quartiers populaires, on a des retours d'instituts. Moi, j'ai des copains qui enseignent qui nous disent quand même que. Ils voient arriver des gamins dans un état catastrophique. D'acculturation, de souffrance psychique, de malnutrition. Donc, que peut faire là ? Comment les politiques publiques et à quel niveau peuvent-elles intervenir pour ne pas laisser ça dans un pays développé comme le nôtre ?
Pour le coup,
moi je trouve que, bien sûr, ça a réveillé le verre de lait de la rentrée 54 de Mendès France. Pour le coup, je trouve que l'action gouvernementale, à condition qu'elle ne coûte pas un euro aux collectivités, parce qu'on a déjà dû compenser sur l'organisation des temps extrascolaires, la réforme des rythmes scolaires, ce qu'on a dû faire dans les municipalités, on a perdu les contrats aidés pour les activités extrascolaires. Déjà, ça nous a coûté un bras sans compensation à l'euro près de l'État, comme d'habitude. Donc si c'est une charge financière en plus, ça ne passe pas, on est à l'os. Mais il y a une vraie question d'urgence sociale.
Parce que ça sera le petit déjeuner, puis un jour ça va être le déjeuner aussi.
Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? On attend vos réactions, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, membre du CESE, Bruno Pomard, maire de Belleflou dans l'Aude, Christian de Villeneuve, journaliste politique, et Olivier d'Artigol, dirigeant national du PCF, conseiller municipal à Pau également. Donc nous parlions de ces petits déjeuners, 200 000 petits déjeuners qui seront distribués, offerts dans les écoles. Enfin, offerts, ça reste à voir, il restera à voir si les communes vont être mises à contribution. Qu'en pensez-vous? C'est vous, Laurent est en ligne avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Alors.
Oui. Ah ben moi ce que j'en pense c'est que nourrir les enfants c'est ce qu'il faut faire bien sûr. Ils ne viennent pas le ventre vide à l'école, mais responsabiliser les parents c'est mieux. Alors ces enfants qui sont mal nourris sont connus, je pense. Les instituteurs les connaissent personnellement. Puisqu'ils les reconnaissent, ils les connaissent. Donc les parents doivent être convoqués. Le petit déjeuner à ce moment-là sera pris à l'école avec eux. Comment ?
Ils ne viennent pas, même convoqués, ils ne viennent pas forcément.
Ah bon, ils ne viennent pas. Bon, mais alors, la CAF peut les convoquer et déduire 25 euros par mois sur l'allocation familiale qui correspond au prix du petit déjeuner pris à l'école, tout simplement. Et là, ils iront à la CAF, je vous le dis.
Mais c'est fait pour être, pour aider ces familles, mais est-ce que ça les aide en nourrissant les enfants ?
Mais ce que dit monsieur, il y a des aides sociales déjà à la base, donc est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution, peut-être autre ? Je ne sais pas moi, mais il y a quand même une vraie interrogation sur ce... On est toujours en train de trouver toujours des solutions à l'emporte-pièce. Allez, on rajoute un truc, on rajoute d'autres trucs, on sort de l'argent, ça va coûter aux collectivités, c'est sûr et certain.
Gourdance nous dit petit déjeuner gratuit pour ceux qui les consomment, mais payé par ceux qui ne les consomment pas. Bon, c'est une remarque comme une autre, pourquoi pas, mais Olivier d'Artigol, vous qui connaissez bien
Il faut faire la distinction entre des familles qui ne se comportent pas bien, et ça existe, et des familles qui n'en peuvent plus, sont au bout du rouleau, ont perdu pied. Y a de vraies situations d'urgence sociale où le système aujourd'hui qu'on appelle d'aide sociale est défaillant, voilà, et n'apporte plus de réponses rapides. Voilà. Vous savez, moi je connais bien les quartiers populaires à Pau, il y a des familles, aujourd'hui la moindre démarche, par exemple il y a des allocations, vous savez, le non-recours par exemple, quand on dit à certaines personnes vous avez droit à ça, le non-recours de prestations sociales existe, il y a des familles qui n'ont plus l'énergie par les accidents de la vie cumulés, par la spirale d'avoir... ouais. Voilà, ça, ce que dit le monsieur est frappé du bon sens,
ouais, mais
si ce n'est, bon, quand on va taper, bon, on peut discuter des modalités, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est du cas par cas, c'est la maille fine.
Mais alors justement, est-ce qu'on fait une mesure aussi générale ?
Et puis il y a un problème aussi. C'est... Je termine dessus, parce que ça me touche. Ouais. Vous savez, les gardiens d'immeubles à la place des digicodes, c'était mieux quand même. La présence humaine, les contrats aidés, le milieu associatif, l'éducation populaire, tout ce réseau qu'on a eu, qui était des réseaux de détection, d'aide, de solidarité immédiate, tout ça on l'a perdu. Et souvent, qu'on appelle maintenant, on tombe sur des répondeurs. C'est-à-dire, on a besoin aussi de personnes sur le terrain. Qui...
La proximité, le lien social, on a oublié tout ça.
Bon, bah écoutez, on verra ce que tout ça va donner. En tout cas, c'est en test. Et puis, on verra effectivement si les enfants prennent ces petits déjeuners. Parce que souvent, les enfants n'ont pas faim. Donc, il y a aussi de l'éducation à l'alimentation, à la nutrition qu'il va falloir faire.
C'est très salutaire.
Très salutaire, absolument. Allez, les époux Fillon, sans transition, renvoyés en correctionnel, le procès Fillon, qui va vraisemblablement être assez saignant et sanglant. Visiblement, le juge donc a reconnu le fait que tout ça était des emplois fictifs. C'est ce qui a mis la droite à terre, hein, ouais. Tout de même, Christian de Villeneuve.
Moi, je pense que ce sont surtout les juges qui ont mis la droite à terre. Moi, je suis très
Il y a des
étonné.
Faits, il y a des faits, non ?
Attends. Ouais. Je suis très étonné par la célérité et la rapidité avec lesquelles François Fillon a été mis en examen en pleine campagne électorale, bon, obérant complètement le résultat, et la longueur de l'instruction, puisque qui a duré deux ans. Moi, j'ai le sentiment que les juges, une fois que François Fillon était écarté de la scène politique, il ne savait plus que très bien faire de cette affaire. En plus, le procès risque d'intervenir dans un an ou deux. Vous vous rendez compte ? Donc c'est ça qui m'interpelle beaucoup, sans compter que je pense qu'il y a beaucoup de députés qui doivent trembler.
En même temps, ça a mis en évidence tout ce qui se passait et qui était en même temps autorisé à l'Assemblée nationale et ailleurs. Tous les privilèges, encore une fois. Mais le départ des Gilets jaunes, ce n'est pas un hasard. Au-delà des problèmes sociaux, etc., on se rend compte que l'affaire Fillon... ça concerne un paquet de députés ou de sénateurs, etc. On le sait, il y a plein d'affaires. Tout le monde mange au gâteau et on profite
attention.
Jean-Luc Benhamia, qui a été député européen, le sait, ça.
Parce que le phénomène
mais non, mais on connaît le système, malheureusement.
Le phénomène de brebis galeuses qui peut exister ne doit pas porter l'opprobre.
À ceux qui
par exemple, moi je connais les attachés parlementaires, c'est un vrai boulot.
C'est un vrai boulot.
D'ailleurs, pas mis en lumière, très exténuant, et beaucoup d'heures de travail.
Et payé le SMIC. Oui.
Voilà, non, donc, ça dépend le nombre que tu as.
Ça dépend du député.
Mais l'affaire Fillon, que la justice fasse son travail, je suis assez d'accord sur la temporalité, mais en tout cas, elle nous aura privés du débat présidentiel dont on avait droit, projet contre projet.
Oui.
Et c'est absolument une part aussi de ce qu'on paye aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes, parce qu'un certain nombre d'éclaircissements, de clarifications n'ont pas eu lieu en temps et heure pour voter. Un mois avant le premier tour, la majorité des Français n'avait retenu du programme Emmanuel Macron, qui est passé à travers les gouttes, que la suppression de la taxe d'habitation. Ils ne voyaient rien d'autre de très clair, parce qu'ils disaient les formules « pensée printemps », vous vous souvenez tout ce truc, quoi. C'était un truc hallucinant. Ouais. Donc ça nous a privés de la confrontation
débat,
démocratique.
Ça a été
infernal, hein, qu'on y repense.
Ouais, mais encore une fois, moi, cette affaire Bruno Fillon, c'est quand même par rapport à ce qui s'est passé aussi avec le MoDem, avec Bayrou. Il faut le dire, les attachés parlementaires européens, etc. Et le français moyen, moi je vois dans mon petit village, les mecs ils disent c'est tous des combinards, les politiques. Ils profitent du système comme des malades. L'affaire Fillon a été... l'explosion même de tout. Et ça fait du tort aux députés qui bossent sûrement très bien. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Les privilèges, ça suffit, quoi. Surtout dans la situation dans laquelle on se trouve.
Ouais. Alors, on a Eric en ligne avec nous. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour.
Attends, ouais. Faut que tu réagisses.
J'espère que vous allez bien.
Oui, vous
aussi. On va être dans la continuité de l'interlocuteur. Ouais. Je ne sais pas son nom. Désolé, excusez-moi, monsieur.
C'était Bruno Pomar.
Voilà. Donc, en fait, j'ai une proposition à Sud Radio à faire et à Didier Maestro, c'est de faire une émission spéciale affaires politiques. Parce que, en fait, comme disait l'interlocuteur précédent, c'est une accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de compte, l'affaire Fillon, c'est qu'une affaire parmi un nombre énorme d'affaires. Et résultat, la défiance que les Français ont vis-à-vis du politique n'est pas étrangère à cela. Je ne fais que répéter en fait ce qui a été dit précédemment, parce qu'il a exactement le même témoignage que moi. Mais ce qui serait pas mal, c'est ou bien une émission de radio, ou bien un journal spécial.
Et pourquoi pour, ça s'appelle un peu le canard enchaîné, non quand,
Non, c'est différent, parce que on va dire qu'il serait orienté uniquement là-dessus. C'est-à-dire de façon à ce que les gens voient concrètement dans l'ensemble toutes les affaires qui entourent le milieu politicien, pas politique, hein, faut faire le distinguo, et en parallèle, évidemment, les histoires de lobby, parce que tout ça, en fait, tout ce que l'on voit, c'est présenté, on va dire, si j'ose dire, au compte-gouttes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, de temps en temps, une affaire, régulièrement, certes, mais on n'a pas, si vous voulez, la vue d'ensemble. Mmh. Et je pense qu'à mon sens, il serait pas mal de faire tout ce listing, de présenter toutes ces affaires, de présenter tous les sujets auxquels...
Pour arriver à quoi? À tous pourris?
Non, pas pour arriver à tous pourris, pour que, en fait, dans le sens, pour que les gens puissent voir un aperçu global de la situation, puissent...
Je pense qu'ils le savent, hein, enfin, non?
Non, c'est sanctionné, tout simplement, les gens qui
dérapent. Alors, attendez, non, mais quel est le but? Parce que François Fillon est renvoyé en correctionnel, il y a des procès qui prennent énormément de temps, ça je suis d'accord avec vous, mais le but de toutes les... On les connaît, les affaires, non?
Disons que on les connaît, certes, mais je pense qu'à mon avis, ce qu'on a surtout, c'est, on va dire, des résumés. Mmh. Ce sont des dépêches à effet maintenant, en fait.
Il y a quand même des enquêtes qui sont faites régulièrement. Je sais que la mode n'est pas à la glorification des journalistes qui travaillent dans les journaux
d'investigation
ou les journaux mainstream, comme on dit. Mais il y a quand même des enquêtes qui sont faites régulièrement avec des enquêtes qui sont plutôt impartiales, non, globalement.
Il y a quelques années, ne serait pas allé au bout, quand même, dire la vérité.
Mais comment vous expliquez, ça relie, parce que je voulais qu'on en parle, que Nicolas Sarkozy soit devenu la personnalité politique préférée des Français, selon un sondage de Doxa. 30% des sondés affirment soutenir ou éprouver de la sympathie pour l'ancien chef de l'État en retrait de la vie politique.
Parce qu'il est en retrait.
Il devance de 4 points. Marine Le Pen arrive derrière et Ségolène Royal.
Valérie, à chaque fois, c'est la même chose. Chirac est parti, c'était pareil, il était un peu détesté.
Chirac, il a mis du temps, quand même.
Vous expliquez, après tout ce qu'a subi Monsieur Fillon, qui n'était pas la même personne pour qui j'ai voté, évidemment. Comment on peut expliquer qu'il fasse quand même 20% dans ces cas-là? C'est énorme par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. C'est gigantesque. Et c'est pour ça que la droite française, elle n'a pas disparu. Elle ne disparaîtra pas dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Donc,
non, mais elle n'est pas très bien en forme.
Les gens sont complexes. J'entendais ce que disait l'auditeur. Très bien. On va enquêter sur tout ce qui tourne autour des politiques. Mais après, on va enquêter sur tout ce qui tourne aux entreprises. Puis après, on va enquêter sur tout ce qui touche aux associations. Je disais hier.
Ce que fait
Trafim. Je finance, dans les financements associatifs, une association qui s'occupe des personnes aveugles. Et puis je m'aperçois hier, en lisant Libération, deux pages, je finance cette association où il y aurait des détournements. Et on peut aller très loin comme ça. Oui. Attention à la société de délation continuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enquêter. L'affaire Fillon, l'une des affaires réelles pour M. Fillon, en dehors de ces histoires de costards qui sont assez ridicules, c'est non pas l'affaire des assistants parlementaires, c'est l'affaire de, semble-t-il, je pèse mes mots, emploi fictif par rapport à la revue dans laquelle sa femme, son épouse...
Il est mis en exergue pour détournement de fonds publics. Pas du tout pour l'affaire... Pas du tout
pour
l'affaire
de Robert.
Il n'a rien à voir, c'est pas la même chose.
Marc Dantastaria a reconnu...
Il a été condamné.
Mais Pénélope Fillon, pour Pénélope Fillon, il y a prescription.
La correctionnelle vise en fait l'emploi fictif de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale.
C'est encore. Non, parce qu'il y a son suppléant. Elle, son suppléant, et la totale serait de 1 million.
Mais tu m'as pas répondu sur Nicolas Sarkozy. C'est assez inattendu tout de même, non? Qui revienne.
Je pense que les Français sont en manque de personnalité charismatique.
Ouais. Et donc c'est.
C'est une réalité. Dans les sondages, on voit, quelles que soient les sensibilités politiques d'ailleurs, que le cumul des crises est tel qu'il y a l'attente de l'homme fort,
providentiel,
celui qui pourra
régler.
Assez, c'est aussi un des signaux de l'affaiblissement démocratique, parce que je pense que les solutions, elles sont collectives, elles sont à différents niveaux, mais il y a cette attente-là. Non, puis Sarkozy a plutôt été habile, je trouve, dans sa communication, sa parole s'est raréfiée.
Un peu de sage.
Petit côté un peu, voilà, sur son Aventin, ce que n'a pas réussi à faire François Hollande en revenant dans le...
Le circuit.
Non, oui. Ça c'est sûr. On a Karine en ligne avec nous. Bonjour Karine.
Oui, bonjour. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'affaire Fillon. Moi, personnellement, je me sens vraiment... Enfin, j'ai l'impression qu'on m'a confisqué mon élection présidentielle avec ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Et encore aujourd'hui, je trouve ça extrêmement grave. Il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, si on prend vraiment l'affaire, je veux dire, sur les attachés parlementaires, il est quand même étonnant, et là je parle sous votre contrôle, parce que il me semble quand même me souvenir que M. Richard Ferrand était également concerné par ce type de problème, puisqu'il avait... mis son fils ou sa fille qui était comme par hasard à Londres au moment où il était c'était une pratique certes, mais il ne semble pas que monsieur Richard Ferrand ait été poursuivi pour le sujet. Il a été poursuivi pour l'histoire de la mutuelle qui comme par hasard a donné un lieu, et là sur son affaire de fils ou fille, il a été totalement exonéré, alors que monsieur Fillon a été poursuivi, et encore une fois la place est acharnée. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, parce que moi je me souviens que déjà, lorsque la campagne présidentielle a démarré, et là on a vu justement la concentration au niveau de la presse et des médias. Il se trouve que j'écoute une radio qui est concurrente de la vôtre de temps en temps, qui s'appelle Radio Classique pour pas la nommer, qui appartient à Monsieur Bernard Arnault, et je peux vous dire que les diatribes à l'encontre de Monsieur Fillon quotidiennement le matin, et avec Monsieur Bayrou évidemment en tête, sur Monsieur Fillon, avec Monsieur Bourlange, qui comme par hasard a été viré de France Culture et qui s'est retrouvé tout d'un coup sur Radio Classique. Je veux dire, on a vraiment laissé libre cours à ces diatribes, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je veux dire, je suis étonnée qu'on n'ait pas trouvé quelque chose de plus grave, finalement, si je peux dire, sur M. Fillon, parce que on a trouvé l'histoire des costards, mais si on avait pu trouver des affaires beaucoup plus graves d'influence, je pense qu'on les aurait trouvées. Or, on ne se penche pas du tout sur les influences qu'il y a dans l'entourage de M. Macron. On ne se penche pas du tout, par exemple, on a oublié, alors je sais que ça peut paraître anecdotique, mais que quelques mois après son élection, par exemple, il a fait en sorte que quelqu'un de la marine nationale, donc française, aille trouver un point d'ancrage pour le yacht de Monsieur Bernard Arnault, parce qu'il voulait s'ancrer dans un endroit qui était une réserve naturelle. Et ça, personne n'en a parlé. On enterre toutes ces choses-là. Il y a une autre chose quand même que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on ressort justement cette affaire Fillon systématiquement lorsque on sent qu'il y a une angoisse sur la légitimité du gouvernement actuel en place. Et je suis d'accord
là,
avec vous.
La justice qui suit son cours, ça tombe à ce moment-là.
Oui, mais la justice... Mais moi, je me souviens aussi que même Maître Dupond-Moretti, qu'on ne peut pas suspecter d'être pro-Fillon, avait dénoncé la façon dont la procédure s'était passée et les fuites qu'il y avait eues, et trouvait ça absolument scandaleux.
C'est vrai que l'affaire ressort en pleine période électorale, quand même.
Oui, c'est vrai.
Elle
a raison, Karine. Après, effectivement, ça rejoint un petit peu l'appel précédent, c'est-à-dire que tout n'est pas exploité, développé, etc.
Si c'était très stratégique pendant la période électorale, à la limite, on se serait calqué sur le Rassemblement National, qui a aussi ses problématiques d'attaché parlementaire à l'Europe.
Oui, mais il y a encore un mois de campagne.
Oui, mais on n'entend pas parler, c'est vrai que...
De non-campagne.
Pourtant,
ils ne sont pas mieux
que les autres sur ce sujet-là.
Allez, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à minuit, vous retrouvez... Midi, pas minuit, mais ça continue jusqu'à minuit. Jusqu'à midi avec vous, ensuite André Bercoff. Je vous rappelle ce soir Les Clés d'une Vie de Jacques Pessis qui recevait Dick Rivers, sera rediffusé donc à 21h. Dick Rivers qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 74 ans. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, il se dit des choses dans ce studio, on est ensemble jusqu'à midi avec vous. Travailler plus, faut-il repousser l'âge de la retraite? Pourquoi pas? Jean-Paul Delevoye, ce matin, a confirmé dans la presse régionale que l'âge de la retraite ne bougerait pas, il l'a affirmé haut et fort. L'âge légal ne changera pas, mais bon... Si vous avez envie de travailler un peu plus, ce ne serait pas plus mal. C'est en tout cas ce que dit Jean-Paul Delevoye. Mais bon, si ce n'est pas à taux plein, pourquoi pas Christian Villeneuve. Comment vous comprenez
Jean-Paul Delevoye s'est plaint il y a quelques semaines de la confusion entretenue autour de l'âge du départ de la retraite. par le président Darmanin et compagnie. Et là, il nous fait un truc ce matin qui est particulièrement qui est d'une dialectique qui est un peu spéciale. Parce qu'il nous explique... Ah non, on ne va pas toucher à l'âge légal
du
départ en retraite, c'est-à-dire 62 ans. Mais ce serait quand même bien que vous travailliez jusqu'à 64 ans, parce que le système a besoin que vous travailliez jusqu'à 64
tout
ans.
Tout simplement.
Oui. Non, mais voilà. Donc c'est
tout simplement parce que c'est un marché de dupes, et c'est le bal des hypocrites, voilà. Dans le sens où les personnes aujourd'hui qui voudront partir avec un niveau de pension de retraite leur permettant de vivre, seront obligés de pousser plus loin que l'âge légal, va être un totem sur lequel ils peuvent d'ailleurs ne pas bouger. S'ils bougent, ils le feront plutôt sous la réforme concernant le financement de la dépendance. Mais au final, ce que tout le monde va se dire dans les années qui viennent, je pourrais partir à quel âge ? Donc, et les comptes qui seront faits, ça sera plutôt du soin de... Et j'aurai quoi comme niveau de pension ?
Voilà,
donc y avoir une incitation à partir plus tard pour avoir une pension complète. C'est dégueulasse, quand même.
D'ailleurs, ils envisagent, justement... on va voir le schéma, c'est...
Il y a
partir à 62 ans, mais si vous voulez toucher le taux plein, il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Et d'ailleurs, ils envisagent, par exemple, dans la réforme, d'avoir une surcote de la pension à partir de 62 ans.
On a 1,5 million de seniors aujourd'hui qui sont au chômage et qui n'ont pas droit à la retraite.
C'est ça qui est complètement paradoxal. Ouais.
Comment on fait ?
En même temps, il va falloir que les gens travaillent plus.
Oui, oui mais travailler plus, on n'en veut plus des seniors. On les pousse dehors.
Mais parce qu'il y a de plus en plus de retraités. Et on paye avec quoi les
retraites ? Il y a des modes de financement possibles. Si vous mettez les revenus du capital, vous savez, les 500 plus grandes fortunes en France, elles accumulent un patrimoine financier de 600 milliards.
Ça, c'est le Parti communiste qui dit ça.
Non, mais si on fait une journée, par exemple, de solidarité sur ces fortunes, je divise ces 600 milliards par 365, une journée juste. Ça fait rentrer 3 milliards. Et les comptes, on va discuter de tout ça dans les mois qui viennent. Mais au final, le système peut se financer. Si vous luttez contre la précarité de l'emploi, si vous faites des sécurisations des parcours professionnels, si vous gagnez l'égalité salariale femmes-hommes, vous faites rentrer de la cotisation.
Mais ça donc fait des dizaines d'années qu'on entend toujours les mêmes trucs. Il faut prendre de l'argent au capital. Mais tous les gouvernements l'ont fait, gauche-droite. Ne l'ont pas fait. On voulait le faire, mais personne ne l'a fait.
La fax tax, je peux vous dire qu'elle a fait du bien au patrimoine financier.
Je vois un auditeur, Sacha, qui nous dit pourquoi pas un système où l'on pourrait continuer à travailler à mi-temps et l'autre temps payé à la retraite sans limite d'âge. Mais le problème, c'est le boulot. Si on est dans la réalité des choses, les entreprises poussent au départ les plus de 50 ans.
C'est le boulot et ça dépend des métiers. Chacun sait bien qu'on travaille dans la culture, quand on travaille dans le journalisme, on travaille dans une radio, des choses, on peut travailler un peu plus. Je ne dis pas que ce n'est pas fatigant, mais c'est quand même un peu moins.
Il y a plein de travailleurs indépendants qui continuent à travailler.
Quand on est magasinier, je pense à la nouvelle classe, pour moi, ce que j'appelle la nouvelle classe ouvrière, hein, dans le tertiaire, magasinier, à un moment donné, à 50 ans, 55 ans, quand on doit porter des paquets et faire tout ça, on n'y arrive plus.
Parce qu'après, il y a question de l'espérance de vie en bonne santé, qui est un critère important aussi.
C'est un critère.
Non, mais c'est ça, c'est que ça ne peut pas être global. Il y a des métiers pour lesquels c'est extrêmement compliqué.
C'est pour ça que dans la réforme, Jean-Paul Delevoye le sait très bien, par point, pourquoi pas, pense moi depuis longtemps qu'on peut en discuter, mais ça veut dire que certains métiers auront plus de points que d'autres métiers. C'est une évidence. Et que les femmes auront des points supplémentaires quand elles auront passé, évidemment, un temps en temps maternité.
Et la pénibilité, parce que la pénibilité, bien sûr, elle est physique, les critères existent. Mais regardez combien de temps il y a la pénibilité psychique. Gens, par exemple, qui ne déconnectent jamais. Les cadres, etc., qui partent avec l'ordinateur, qui ouvrent leur session le week-end, les objectifs qui ne sont pas tenables, le court-termisme, la culture de la performance, tout ça, ça abîme les corps et
Oui, oui, mais Claudine nous dit pour la plupart des entreprises, 50 ans, on est déjà vieux. Et oui. Donc, il y a ce paradoxe de dire il faut travailler plus longtemps avec des métiers où on ne peut pas parce qu'on est effectivement abîmé physiquement et d'autres, on ne veut plus de vous parce que vous n'êtes pas assez jeune.
Ce qui fait plaisir, c'est il y a quelque chose dans les échos là aujourd'hui, une étude comparative sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Parce qu'on nous présente toujours comme des feignasses, en retard sur tout le monde sur les heures de travail à l'année. C'est pas le cas. On travaille plus que les Allemands au même niveau que les Anglais.
Tiens. Je sais pas où j'ai vu le contraire, moi, hier.
Dans l'alternative économique, il y a un tableau qui est publié sur ce récit.
On est assez haut.
Et dans la collectivité. Oui, pardon.
Heures de travail par an, Allemagne, 1356. Danemark, 1408. France, 1514. Espagne, et après, temps de travail par semaine. Espagne, 36,4. Allemagne, 34,8. France, 36,3. Mais c'est bien que ça tombe là, parce qu'on a eu des années où on nous faisait la leçon en disant allez, il va falloir travailler là. Les Gaulois réfractaires.
Et c'est valable, excuse-moi Valérie, c'est valable aussi sur le nombre de jours de congé. Quand vous regardez, on n'a pas beaucoup plus. On est dans une moyenne par rapport à tous les États.
Le 8 mai est menacé. Ça se commence à se savoir sur les arbitrages gouvernementaux. Il y a une volonté d'un jour férié en plus travailler. Ça va ouvrir une belle polémique, à la fois un jour de plus et sur le choix du jour, si c'est le 8 mai. Là, on rentre dans des semaines de polémiques intenables.
Y a des jours fériés qui sont liés à des fêtes religieuses, qui sont pas forcément très légitimes.
Comme le lundi de Pâques.
Lundi de Pâques, l'Assomption. Voilà. Et on aura la liste.
Là, c'est le même.
Dans ces moments-là, j'aime bien les saints,
les dieux. Et là, on parle. Vous avez commencé l'émission en parlant de polémiques haineuses. Et là, je sens que.
Tu oses dire ça après Notre-Dame, après la Cité. C'est
moi ce que je crois.
Ça n'est pas possible.
Mais Swann et Don Camillo peuvent se mettre d'accord sur le fait de ne pas être
haineux. Moi, ce que je pense au-delà du temps de travail, c'est le salaire. C'est les hauteurs de salaire. Ouais. À la limite, les gens peuvent travailler plus, voudraient travailler plus pour certains, j'en suis sûr, à partir du moment où ils seront payés
en conséquence. Mais vous croisez des gens, en particulier les chauffeurs de taxi, etc., qui font ça au-delà de la retraite, en plus, avec un autre boulot. On a Olivier en ligne. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ah, ben voilà, la retraite, c'est un gros sujet, puisque je suis en retraite depuis le 1er avril.
Oui.
Donc, je suis en plein dedans. Par contre, il y a longtemps que je parle de la retraite. En 1945 et 1948, quand ça a commencé, on travaillait 48 heures par semaine. Mmh. Aujourd'hui, on travaille 35 heures. À l'époque, le système était viable. Il n'est plus du tout viable, quoi. Mmh. Et quand j'entends parler des gens qui veulent faire 32 heures, à un moment donné, prenez une calculette, 10 euros de l'heure, de 35 à 48 heures, multiplié par 29 millions de travailleurs, et un pouvoir d'achat de 200 milliards.
Oui, mais
vous savez ce que c'est, 200 milliards, 20% de TVA, c'est 40 milliards pour l'État.
Mmh. À l'époque,
on trouve tout. On retourne aux 40 heures. Je ne vais pas leur demander d'aller à 48 heures parce que je me fais lyncher dans la rue. Mais, à 48 heures par semaine, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires, de pouvoir d'achat pour les gens. Ça crée l'emploi, ça crée tout, il y a tout qui redémarre.
Mais attention à la comparaison par rapport à l'origine du système. D'ailleurs, hommage à Ambroise Croizat, qui a beaucoup fait, qui était ministre communiste à l'époque. Mais nous avons gagné énormément en gains de productivité. Et ces gains de productivité pourraient être répartis vers plus de salaires, parce qu'on a quand même des salaires trop faibles en France, et vers la poursuite d'un mouvement historique qui est la réduction du temps de travail. Heureusement, quand même, qu'on peut libérer du temps de vie hors marchand, hors ces logiques marchandes et liées au travail. Parce qu'il peut y avoir une troisième vie avec l'expérience accumulée qui a une utilité sociale hors travail formidable pour le réseau associatif.
Pour l'économie, même.
C'est déjà le cas. Hein.
Oui, mais moi, je trouve que les retraités, aujourd'hui, sont une pourraient être une force pour notre tissu associatifs, etc., beaucoup vivent des situations très difficiles parce que le niveau des retraites aujourd'hui, c'est difficile. Ouais. Avant, j'aime bien prendre cette image. Avant, c'était nos papis, nos mamies qui nous glissaient le billet quand on était enfant. Ouais. Maintenant, c'est ceux qui travaillent qui glissent le billet à leur ancien. Ça veut dire que ça va pas trop bien, quand même.
C'est un peu caricatural.
Parce que je pense qu'il
y a aussi beaucoup de retraités qui aident leurs enfants et petits-enfants, parce que eux, précisément, les enfants et petits-enfants, sont dans des situations précaires.
Oui, mais ce que je vous ai dit existe aussi.
Allez, on vous mettra pas d'accord. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on vous retrouve André Bercoff. Et puis ce soir, je vous rappelle les clés d'une vie consacrée à Dick Rivers, dont on a appris le décès ce matin. Merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres infos.